Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont sur la page de l'émission Radicaux Libres sur le site Radio Alpa. Cette semaine, une semaine encore riche en rebondissements, on aurait pu vous parler du monde carcéral. C'est pas très sympathique de tirer sur les ambulances, je sais bien, mais devinez qui disait. Je souhaite qu'il n'y ait pas de mesure d'aménagement de peine pour les peines supérieures à 6 mois. Il le disait dans un tweet donc du 3 novembre 2015. Oui, vous avez trouvé, c'est un certain Nicolas Sarkozy. Et maintenant, qui disait ? En novembre 2025, à propos de la prison après 3 semaines d'incarcération lors de l'audience pour sa demande de remise en liberté, c'est dur, c'est très dur, ça l'est certainement pour tout détenu, en parlant de l'incarcération. Un peu plus tard, le même rend hommage au personnel pénitentiaire qui, avec lui au moins, a été, je cite, « d'une humanité exceptionnelle et qui a permis de rendre ce cauchemar plus supportable ». Eh bien oui, c'est également Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui a été libéré lundi 10 novembre du fait de son âge en particulier et parce qu'il ne mangeait plus que des yaourts. L'audience de demande de libération de Nicolas Sarkozy a permis de vérifier les garanties de représentation du détenu Sarkozy afin de savoir s'il est logé, s'il a des activités, s'il a des revenus et donc s'il va s'enfuir, s'il ne va jamais se représenter à son appel. Eh bien, s'il a des revenus, à cette question, on apprend qu'en 2023, il a perçu, comme nous le disait le président du tribunal, un certain Olivier Géron, 637 791 euros de salaire, 152 906 euros de pension et de retraite, 1 331 056 euros de capitaux mobiliers, ouais, c'est des loyers, des trucs comme ça, et 2,3 millions d'euros de revenus non commerciaux, soit la somme totale pour 2023 de 4 500 000 euros. Super. Alors, il paye une pension alimentaire de 77 000 euros à son ancienne épouse. Ouais, c'est sympa, mais c'est en fonction justement du niveau de vie de tout ce beau monde. Et il a un patrimoine immobilier de près de 10 millions d'euros en 2024. Alors comment fait-il pour gagner autant d'argent ? Eh bien, il a longtemps été élu. Et voilà donc comment il peut avoir 12 000 euros de retraite par mois. D'aucuns s'en contenteraient. Rappelons que les statistiques officielles de l'Adresse parues en juillet 2025, l'Adresse étant un organisme statistique, une direction statistique officielle, en juillet 2025, l'Adresse nous donne comme retraite moyenne en 2023 pour la France, on n'a pas encore les chiffres de 2024, 1666 euros bruts, 1541 euros nets, donc dégagés de tous les prélèvements sociaux. Avec environ 20% de retraités qui touchent le minimum contributif qui se situe en moyenne à 900 euros, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Donc en plus de sa retraite, Nicolas Sarkozy continue sa carrière d'avocat. Alors avocat d'affaires hein, et de conseil de boîte aussi humaniste que Accor par exemple. Hein. Accor qui est aussi appelé l'exploitation de femmes de ménage intérimaires pour hôtel de luxe. C'est ce personnage qui a reçu des dons en quantité durant son incarcération, notamment pour l'aider à cantiner. Les gens se rendent pas compte. Hein. Eh ben, j'espère qu'il les a rendus, les dons. La suite au prochain épisode, c'est-à-dire fin novembre, quand la Cour de cassation aura rendu son jugement quant à l'affaire Big Malion. Souvenez-vous, le montage financier, ouais, des fausses factures, des fausses conventions pour cacher les dépenses de campagne. Alors, c'est pas Nicolas Sarkozy qui mettait les mains dans le cambouis. Bah non, hein, forcément. Il n'empêche que comme il était le principal bénéficiaire, on peut se dire qu'à un moment, en tout cas, c'est ce que se dit la justice, il avait un intérêt à ne pas voir s'il se passait quelque chose et peut-être même à l'organiser. Eh bien, ça a crevé le plafond autorisé pour la campagne de l'élection présidentielle en 2012. Et du coup, il a perdu quand même. Eh oui, alors Nicolas Sarkozy, eh bien, à très bientôt dans les médias. Et puis, bah, peut-être à très bientôt en prison aussi, puisque là, il y a peut-être du sursis qui va sauter. On aurait pu vous parler d'hôtel de luxe. Débat houleux. Titre la presse locale à propos de la séance du conseil municipal du jeudi 13 novembre. La municipalité a tranché, c'est bien un hôtel de luxe qui verra le jour à la place du musée de la reine Bérangère dans le Mans vieux. Le vieux Mans, ah le vieux Mans, eh bien ça a bien changé le vieux Mans et maintenant c'est devenu de plus en plus désincarné. Alors on espère que ça va pas trop se muséifier, mais ça devient quand même une vitrine. Alors pourquoi pas un hôtel de luxe à l'intérieur hein. Alors on n'a pas véritablement d'infos sur le vieux Mans, à savoir voir, est-ce qu'il y a plus de commerces qu'il y a 20 ans? Est-ce qu'il y a moins d'habitants? Est-ce que ça ressemble de plus en plus à un attrape-touriste et plus du tout à un lieu de vie? On ne sait pas, on n'a pas les infos, mais en tout cas, on a, pour le côtoyer depuis un certain temps, ce vieux monde, on a un sentiment. À propos de nouveaux aménagements, ce ne sont pas n'importe quels nouveaux aménagements, puisque là, on parle d'un hôtel de luxe. Le projet avait capoté rue Prémartine, à la place des locaux du Crédit Agricole. Normalement, un hôtel de luxe devait voir le jour. Puis finalement, non. Mais le revoilà, l'hôtel de luxe, dans le Vieux Mans. Un hôtel de luxe avec piscine qui a pour but d'attirer forcément de la clientèle de luxe. Des richoux. Ah, la municipalité actuelle aime les riches. Elle veut les attirer. Elle veut qu'ils viennent, elle veut peut-être changer l'image de la ville du Mans, qui est plutôt une ville décrite comme ouvrière, voire une ville de pécor, oui, de bouseux, où il ne se passe jamais rien. C'est pas tout à fait le cas. Il se passe plein de petits trucs, plein de moyens trucs, et puis des gros trucs. Ah oui, parce qu'en ce moment, on préfère forcément faire du spectaculaire quand on est à la tête d'une municipalité. Et là, il faudra attirer des richoux. Ce genre d'aménagement du territoire participe à un phénomène qui s'appelle la gentrification. La gentrification, c'est le fait d'essayer d'attirer des riches pour que ces riches remplacent les classes populaires. Alors ça se fait très facilement, par exemple, à l'occasion d'une rénovation d'ensemble pour des Jeux Olympiques. Ah ben oui, les Jeux Olympiques en 2024 à Paris, ils se sont très 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 bien passés. Il y a eu quelques aménagements et puis on a repoussé encore les plus pauvres un peu plus loin. Ouais, un peu plus loin en banlieue. Et comme ça, ça permet forcément pour la ville de Paris et même pour les communes de la première couronne de s'afficher comme n'étant pas des territoires où on va rencontrer la pauvreté, la misère, voire même, on ne sait pas, l'abandon total des collectivités territoriales, des services publics. On le verra pas ça, puisque forcément, si on attire du riche, le riche a moins besoin des services publics, il a lui-même un patrimoine. Alors le Vieux Mans est un cas d'école, c'était un coupe-gorge malfamé dans l'après-guerre, années 50-60, et c'est devenu un quartier de plus en plus muséifié. Pour le reste du Mans, il y a plusieurs structures qui nous font penser que la gentrification est à l'œuvre, notamment des structures d'accueil de vieux. Les personnes âgées. Oh, pardon. Ouais, vieux, c'est plus d'époque. Par exemple, les EHPAD. Oui, il y a des EHPAD de luxe. Derrière la Visitation, vous vous souvenez qu'il y a un immeuble qui est trop grand. Voilà. Et puis, il abrite en partie un EHPAD pour personnes plutôt riches quand même. Et puis rue Prémartine également, on en parlait à propos des locaux, des anciens locaux du Crédit Agricole. Et puis l'attractivité est aussi renforcée par la propagande municipale. Dans le magazine de la Ville du Mans de novembre 2025, oui, souvenez-vous, ça s'appelle « Au Mans », avec deux petits points, je ne sais pas du tout comment on le prononce. On trouve un dossier. Le dossier s'intitule « Le Mans ». Ville où il fait bon investir. Oui, parce que c'est un support publicitaire et surtout un support pour ceux qui aimeraient investir au Mans. Le magazine de la Ville du Mans est autant à disposition pour les populations qui voudraient s'informer sur ce qu'il s'y passe, mais autant un produit qui peut également être utilisé par ceux qui n'habitent pas au Mans pour pourquoi pas venir y habiter ou venir y investir. Le Mans, la ville où il fait bon investir, tout un dossier qui participe à la concurrence entre territoires. Encore un obstacle sur le chemin de la société, pas facile de travailler ensemble quand on est concurrent. Alors tout y passe dans le dossier et surtout l'entrepreneuriat. Si vous investissez du temps, des compétences, voire de l'argent dans des activités qui ne participent pas au produit intérieur brut, vous n'êtes pas dans le dossier. Par contre, si vous investissez dans la pierre, venez donc dans la cité cénomane. Voyez plutôt, on est page 15 du magazine de propagande municipale, on apprend que le marché immobilier est accessible et il y a un petit texte avec une personne qui fait de la publicité pour une entreprise qui s'appelle Jouspéan. Oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça? Mais c'est sûrement gratuit. En tout cas, c'est passé à l'as, parce que normalement, il n'y a pas de publicité dans ce genre d'ouvrage. Mais le placement de produits en question a peut-être permis de rapporter quelque chose à Le Mans ma ville. Je n'en sais absolument rien là, parce que comment c'est financé? Avec les sous des habitants. Un marché immobilier accessible, c'est une personne qui a repris donc le cabinet Jouspéan, acteur historique du marché, qui nous en parle. Alors elle travaille à plein temps, elle travaille à mi-temps, elle travaille... c'est super. Et qualité de vie, et il est indiqué, je cite, « La ville ne cesse de se développer projet tout en restant accessible. Cette accessibilité, qu'elle soit géographique ou quotidienne, en fait un lieu idéal pour s'épanouir. Ah bah, de toute façon, ça aurait été difficile de dire autre chose, hein, puisque je vous rappelle qu'on est dans le magazine de propagande municipale. Et on apprend au-dessus de ce petit placement de produit qu'il y a un focus sur Le Mans, la ville où investir dans l'immobilier. Et on a deux chiffres. 10,9%, c'est l'augmentation de la valeur des logements au Mans depuis 2023. 2 074 €, c'est le prix moyen du mètre carré au Mans, selon seloger.com. Ah bah tiens, on va en rajouter une petite couche. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de placements de produits dans ce truc. Contre 9 670 € à Paris. Donc, bah, venez plutôt dans le coin, parce que votre logement va prendre de la valeur. Mais les loyers, au fait, dans tout ça? Eh ben, pas d'infos. Il faut dire que le dossier s'adresse à ceux qui ont du pognon et veulent en gagner plus. Toi, le Pékin moyen, tu n'es pas concerné. Souvent, d'ailleurs, tu n'as pas d'argent à investir, tu dois déjà finir le mois. Et bien souvent, dans le rouge. Eh ben, Pékin moyen, reste quand même, parce que va bien falloir trouver des locataires pour les apparts et les maisons dans lesquelles les proprios vont investir. Parce qu'il fait bon investir au Mans. On aurait pu vous parler des gilets jaunes. Le 17 novembre 2018, plus de 230 000 personnes selon la police, donc vous pouvez en ajouter, étaient sur les ronds-points pour... Mais pourquoi faire, au fait? Sur le rond-point près du Leclerc à la sortie du Mans en direction de Sargé-l'Élemin, eh bien, il y avait un blocage par les gilets jaunes en question. Sur place, on avait parlé avec pas mal de gens et certains avaient bien voulu qu'on les enregistre, comme ce jeune homme.
Je disais, moi, c'est remettre l'ISF, quoi, parce que M. Macron est bien mignon. Comme il a dit cette semaine, il veut de l'argent pour le pouvoir public, hein, mais l'argent, il est là-bas. Hein. C'est les gens fortunés, c'est les grosses sociétés, c'est tout ça. Elle est là, l'argent. Nous, on veut bien en donner un petit peu, mais on ne peut pas en donner plus qu'on... Enfin, il y a un moment donné, il faut être logique, quoi.
Donc vous diriez qu'il faut taxer, mais taxer les riches, en fait.
Exactement. Enfin, si on veut plus d'argent, comment on peut donner plus d'argent si on n'en a pas assez? Enfin, à un moment donné, il faut être logique, quoi. Les maths, ça a toujours été une logique, quoi. L'ISF, pourquoi M. Macron a enlevé l'ISF? Pourquoi? On le sait tous, pourquoi? On va pas se le cacher, hein. Moi, j'ai pas peur de le dire, hein. C'est tous ses copains, il va pas taxer ses copains. Moi, je serais le premier à pas taxer mes copains. Mais voilà, il faut remettre les ISF. Il faut aussi taxer tous les gros. Et c'est pareil, les 10% des actions, pourquoi il les a retirés? Voilà, il y a un moment donné, les gens, ils veulent pas dire les choses, mais nous, on le dit, quoi. Il y a un moment donné, l'argent, il veut la prendre, il sait où en prendre, mais pas au bon endroit. Donc, s'il veut qu'on s'entende bien, comme il nous a dit cette semaine, le peuple français est fâché avec ses dirigeants, bah, faites en sorte que prendre l'argent là où il y en a, et puis nous ordonner un petit peu, hein, parce que bon, ça dure pas que M. Macron, hein, il y a eu aussi M. Hollande, M. Sarkozy, hein, qui ont beaucoup fait aussi. Et là, je pense qu'on pourra s'entendre, quoi.
On est un petit peu loin du beauf facho qui nous avait été présenté par les médias. Ouais, là, l'idée, c'est de taxer les riches. Ah, bah tiens, c'est revenu un petit peu dans l'actualité. L'idée, c'est de prendre sa part dans l'effort, mais pas plus. Après, bah, il avoue que s'il était aussi au pouvoir, ce jeune homme, bah, il taxerait pas ses copains. Ouais, c'est un petit peu difficile de faire passer l'idée de l'intérêt général quand ceux qui sont à la tête de l'État nous montrent que l'intérêt général pour eux, c'est surtout d'aider la famille, les copains et les membres de sa classe sociale. Voilà ce qui a fait qu'en 2018, il y a eu ce qu'on appelait avant la Révolution française une émotion populaire, en gros de l'émeute en veux-tu en voilà, de l'émeute qui, 7 ans maintenant, est un mouvement... Et qui, finalement, n'a débouché non pas sur rien, mais surtout sur un désengagement encore plus important de ce qu'on appelle la politique politicienne. Et là, ça va devenir difficile, puisqu'il y a des élections incessamment sous peu. Ça va devenir difficile de faire une démocratie, même représentative, hein, parce qu'il y a une ersatz de démocratie, de faire une démocratie même représentative sans électeurs. Là, ça va être de plus en plus difficile. Donc, les gilets jaunes, est-ce qu'il y a des choses qui vont se faire pour fêter cet événement, le 17 novembre 2018, 17 novembre 2025 je ne sais pas si c'est vraiment programmé pour l'instant, mais j'ai pas trouvé d'informations. Si vous en avez, n'hésitez pas d'abord à la diffuser, n'hésitez pas à utiliser sarthe.demosphère.net pour diffuser auprès du reste de la population. Et puis vous pouvez nous écrire sur c'estpasmoi@no-log.org. Mais finalement, on a préféré vous parler du monde associatif. Mmh. Ce week-end, c'est relâche pour les députés alors qu'ils sont en retard sur le programme et qu'il faut voter pour que le texte passe rapidos. Oh, Sénat ! Eh bien, un budget où les libéraux qui nous gouvernent et qui sont ultra-majoritaires au Parlement ne touchent pas aux privilèges des plus riches. Je vous rappelle quand même des histoires de classe sociale, voilà, la famille, les copains. Malheureusement, hein, c'est une cruelle réalité. Et à un nombre indécent de niches fiscales qui ne concernent que les pétés de thunes, non, c'est même pas la peine d'aller essayer de voir comment vous paieriez moins d'impôts, bah, parce que les plus pauvres ne paient pas d'impôts sur le revenu. Et puis, pour les autres, les niches fiscales en question, beaucoup sont inaccessibles. Par contre, les conséquences pour les plus pauvres du budget qui va être voté incessamment sous peu et pour le grand public vont bien se faire sentir. Le budget de l'État en baisse pour les services publics, les services rendus au public, s'accompagnera d'un effet domino à tous les étages. Le ruissellement, c'est dans le mauvais sens. C'est ruissellement des baisses, en fait, qui touchera les régions, les départements, les communautés de communes, les métropoles et autres EPCI, comme on dit, et enfin, les communes. Et en bout de chaîne, les associations vont morfler, puisque ce sont elles qui, en partie, assure les services rendus aux populations. C'est pourquoi le collectif Convergence 72 accueillait samedi 8 novembre des acteurs associatifs de tous les pays de la Loire. Et plutôt que de se laisser tondre la laine sur le dos, les associations résistent. À cette occasion, on a rencontré Florence Loison, chorégraphe de la compagnie Zutano Bazar et l'une des chevilles ouvrières de Convergence 72, qui d'ailleurs nous présente ce collectif.
Un mouvement associatif large, on va dire, suite aux coupes drastiques de la majorité de Christelle Morançais de la région Pays de la Loire sur le budget qui a été voté fin 2024 pour 2025, qui a drastiquement baissé les subventions, supprimées, voire totalement supprimées, à l'ensemble de ce qui était feu la commission 7 qui rassemblait les associations sport, culture, solidarité, égalité femmes-hommes, enfin voilà, tout ce réseau associatif sur l'ensemble de la région. Et donc, face à ces coupes drastiques, un mouvement global des associations s'est mis en place à l'échelle de la région. Et donc, chaque territoire, chaque département s'est dénommé Convergence avec le numéro de son département. Depuis ce moment-là, en fait, à la fois chaque mouvement se mobilise sur son secteur géographique et aussi en convergence régionale. Et donc, depuis avril, Convergence 49, pour le coup, à Angers, a mobilisé ça, de faire en sorte que tous ces mouvements-là puissent se rassembler et se réunir. Il y a eu une deuxième rencontre en Angers en juillet, et puis là, cette fois-ci, c'est au Mans à la Fonderie.
Donc le monde associatif s'organise parce qu'en face, nos soi-disant représentants préparent des budgets. On écoute à nouveau Florence Loison sur le sujet.
Oui, parce que c'est reparti pour un tour. 2025, ça a été une étape, et maintenant il y a le budget 2026, que ce soit pour les collectivités territoriales ou pour l'État.
Ce sont effectivement des couches qui se superposent et dans le négatif, en fait, de moins en moins. Concrètement, sur la question de la région Pays de la Loire, de nouveau, le budget 26 va être voté les 18 et 19 décembre prochains. Donc, le funeste anniversaire, en fait, va avoir lieu. Sur le nouveau budget, un certain nombre de structures avaient des baisses de subventions qui, maintenant, 26, vont être totalement supprimées.
Cette journée à la Fonderie, les journées précédentes, vous ont permis d'aborder un certain nombre de sujets. Est-ce que ça a permis aussi de mettre en œuvre des actions ?
Donc l'idée, c'est effectivement de se rassembler pour connaître déjà les actions des uns et des autres, en fait, sur chaque territoire, qui ont pris des formes très très diverses, essayer de prendre la parole au maximum pour parler aux citoyens et aux citoyennes. On a compris ça aussi l'année dernière, ils ne mesuraient pas l'impact direct et indirect de ces coupes régionales, en plus des coupes nationales, étatiques, à la fois de manière directe, mais aussi de manière indirecte, via les collectivités territoriales, qui sont les premiers soutiens au monde associatif, qui permettent à l'ensemble de ces associations de rendre du service public, en fait, à la population, que ce soit pour la jeunesse, l'emploi, la prévention des violences faites aux femmes, la culture, le sport. La suite, elle est de plus en plus sombre, avec effectivement ce budget 2026 de l'État qui est en cours de débat, et puis ce projet de budget 2026 qui continue de couper massivement sur tous les secteurs et qui inquiète énormément. Le résultat est tant que si en 2025, l'ensemble du mouvement associatif a réussi potentiellement à tenir, on va dire ça comme ça, à la fois sur les bénévoles et puis les administrateurs bénévoles qui sont engagés, les militants associatifs, mais aussi les salariés. On sait que 2026 va être beaucoup plus dur, avec des suppressions de postes directs et de réductions drastiques d'activités au service des populations sur l'ensemble des territoires, que ce soit tant dans des grandes villes que dans les milieux ruraux.
Eh oui, il semble que ça ne tienne plus. C'était d'ailleurs l'objet d'une journée d'interpellation le 11 octobre, organisée par le mouvement associatif, collectif des associations citoyennes également. C'est donc tout un monde qui est attaqué par ceux qui sont censés redistribuer les richesses au profit des populations. Avec des motivations diverses selon les étages administratifs et les régions d'ailleurs. Pour Christelle Morancet, la motivation est clairement sa carrière, oui. Aussi, elle s'est découverte une arme de redresseuse de budget qu'elle explique en février 2025 dans les pages du Figaro magazine. Comme quoi j'ai de saines lectures. À la question, justement, vous avez en face de vous une présidente de région qui vient de faire voter un budget avec 100 millions d'économies dans son plan. Agnès Verdier-Molinier évoque une baisse de 10% de subventions aux associations. C'est un des éléments de votre plan. Comment avez-vous fait pour y arriver? Ah oui, je ne vous ai pas présenté. L'idée, c'était de faire un débat entre Christelle Morancet et Agnès Verdier-Molinier. Agnès Verdier-Molinier, c'est la directrice de la fondation IFRAP. Une fondation ultralibérale dont on ne sait pas véritablement comment elle est financée et pourquoi elle a autant de place dans les médias. Mais quand c'est noté donc dans le Figaro magazine, aux pages débat, en fait c'est une interview croisée de deux brutes libérales, d'accord sur tout. Et c'est pourquoi le journaliste lui demande « Mais alors c'est un élément de votre plan, c'est-à-dire la baisse de 100 millions à Christelle Morancet, comment avez-vous fait pour y arriver ?» Christelle Morancet répond. Agnès Verdier-Molinier le dit à juste titre. Les dirigeants responsables connaissent les solutions pour réduire la dette. La question n'est pas comment faire, mais a-t-on le courage de le faire? Pour moi, réduire la dette est une nécessité absolue. Nous le devons à nos enfants. Ah, quand on commence à convoquer les enfants, surtout pour des histoires de pognon, je rappelle que quand même, les enfants ont beaucoup plus besoin d'amour que d'argent. Depuis 50 ans, je reprends ce que dit Christelle Morancet. Depuis 50 ans, nos comptes publics sont en déficit. J'ai pris le sujet à bras-le-corps dans ma région des Pays de la Loire. Je me suis retroussé les manches, j'ai pris le budget ligne à ligne. J'ai fait des choix et surtout je m'y suis tenu, coûte que coûte. Ce n'est pas facile car ce pays est shooté à la dépense publique et ceux qui en vivent sont prêts à tout pour vous faire reculer. Mais je n'ai pas reculé. Je ne fais pas de la politique pour être aimé, mais pour être utile. C'est beau, hein? Oui, c'est beau comme un discours du mauvais acteur. Mes vrais banquiers qui nous servent de péter de la rep. Mais alors utile à qui? Ah ben là, les priorités du nouveau budget de la région, la conservation de quelques subventions qui ne sont pas de la compétence de la région, nous en dirons un peu plus sur le sujet. Mais on écoute à nouveau Florence Loison de Convergence 72 à propos du budget 2026 et de ses conséquences dans le monde associatif.
Les associations rendent, comme vous le disiez, des services très importants à la population. Est-ce que vous avez des exemples de ce qui manque cette année et de ce qui manquera l'année prochaine ?
Les exemples sont tellement vastes et nombreux. Par exemple, si on parle des associations du type CIDFF, une association au service du droit des femmes, les coupes régionales directes, par exemple, c'est la suppression de permanence, en milieu rural notamment, d'informations aux femmes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de moyens pour se déplacer et il n'y a plus de moyens pour tenir les postes des salariés qui viennent informer les gens. En fait. Voilà, c'est des choses très concrètes comme ça. Et puis la deuxième chose qui est hyper importante, c'est qu'après un an de ce vote régional qui a été vraiment un coup de massue, plus par ailleurs les autres difficultés de financement des associations et des autres coupes budgétaires, étatiques et collectivités. C'est pas que quantitatif en fait en termes d'emploi, mais c'est aussi l'impact psychologique, le burn-out en fait de l'ensemble des militants associatifs, le désœuvrement quelque part, le découragement en fait du militant associatif qui donne de son temps, du citoyen, de la citoyenne française, qui donne de son temps au service des autres et notamment des plus précaires, on s'entend. Qui, de fait, en plus, sont là pour pallier aussi au manque de services d'État, quoi. Donc, en fait, c'est une espèce de machine qui ne cesse de s'emballer, de mal en pis. Et oui, il y a une espèce de plan social géant, sourd, qui est à l'œuvre. Donc, c'est aussi pour ça qu'on se réunit. C'est pour essayer de mieux rendre visible, en fait, ce plan social sourd qui impacte dès la première échelle la plus locale de services à la population, puisque les structures associatives, les unes après les autres, vont être obligées de réduire leurs activités, en fait. Si je prends la culture, pour le coup, qui est mon domaine, c'est à terme, en fait, des structures associatives, des compagnies de spectacles vivants qui vont arrêter. C'est autant d'actions, d'accès à la culture spécifique sur toute la population, les scolaires, les personnes âgées, la création, la production, mais aussi la diffusion, mais aussi toutes les actions artistiques et culturelles, le pass culture notamment, qui est complètement exsangue, en fait, et qui est le seul recours pour pouvoir rendre accessible la culture aux scolaires, par exemple, en collège et lycée. Enfin, c'est vraiment massif, quoi. Et que pour l'instant, ce plan social qui ne dit pas son nom est vraiment à l'œuvre. Et on n'est qu'au début de se rendre compte de ces conséquences-là.
Un syndicat d'employeurs du milieu de l'éducation populaire s'alarme et donne des chiffres. Exopé, pour ne pas citer ce syndicat, a chiffré à 30 000 le nombre de postes menacés dans l'éducation populaire et 90 000 dans tout le monde associatif pour 2026. De fait, un plan de licenciement qui ne dit pas son nom et aura lieu dans des petites structures. Mais plein de petites structures. On était 12, ben là, ce serait bien qu'on soit plus que 10 parce que le budget ne tient pas. Et voilà, deux par-ci, trois par-là. Mais il y a des structures entières qui vont couler. En l'occurrence, vendredi 16 novembre, les salariés et usagers de la mission locale Nord-Sarthe réunis à la Ferté-Bernard alertaient sur des budgets nationaux et locaux qui prévoient tellement de baisses d'aide qu'ils risquent de fermer des antennes, voire même de fermer tout court. Mais c'est pour une activité, la mission locale, qui n'a rien à vendre et qui ne peut donc pas produire de recettes propres. C'est pourquoi elle n'est pas shootée, la mission locale, aux aides publiques. Elle a juste besoin des aides publiques pour vivre, pour exister, pour rendre des services à la population, parce que ce n'est pas un service commercial. Il faut dire que pour les libéraux au pouvoir, le monde associatif et l'éducation populaire ne sont pas des priorités. Ben non, marchandisation du monde, marchandisation de toutes les activités, marchandisation par-ci, marchandisation par-là, voilà le credo des libéraux, dont on vous rappelle que l'idée, c'est que l'égoïsme de chacun va permettre la richesse de tous. Enfin, en moyenne, hein. L'éducation populaire, notamment. Imaginez un concept où il est question d'émancipation, d'autogestion, de participer, d'agir pour des élites qui veulent nous réduire au rang d'électeurs, permettre à l'éducation populaire de perdurer et même de se développer, c'est se tirer une balle dans le pied. Alors, dans la culture, par exemple, nos soi-disant représentants risquent de garder les financements qui leur restent pour du vite vu, vite oublié, du spectaculaire et sans histoire, mais qui rassemble beaucoup de spectateurs. J'ai exprimé cette peur auprès de Florence Loison, eh bien, elle m'a pas rassuré. Mais joli teaser, on verra ça la prochaine fois. Alors, si vous voulez savoir ce qu'il se passe dans notre belle contrée, eh bien, n'hésitez pas à aller voir sarthe.demosphère.net, ce qui vous permettra d'apprendre que, par exemple, hein, ce qui vous permettra d'apprendre, ouais, je suis trop loin, samedi 15 novembre à 14h, place de la République, il y a un rassemblement pour les droits des enfants et contre les interventions israéliennes. Ouais, les gamins sont des victimes totales de tous les conflits faits par des adultes qui veulent d'autant plus de pouvoir. Le dimanche 16 novembre, à la Maison des Associations de La Flèche, à 10h30, vous apprendrez également qu'il y a une réunion d'information à propos de la venue de Jordan Bardella, qui viendra dédicacer un livre paru chez Fayard, tiens, c'est dans le groupe Bolloré, et qu'il y a déjà un appel sur sarthe-demosphère.net à venir manifester contre la dédicace du très libéral président du RN, qui aurait lieu le 22 novembre à 14h à l'hôtel Relais du Loir, rue du Maréchal Foch. Je vous enjoins à aller voir sarthe.demosphère.net pour en savoir plus. Vous apprendriez par exemple qu'il y a le Festival des Solidarités et qu'il y a donc le mardi 18 à la salle Le Royal la présentation d'un film qui s'appelle L'illusion de l'abondance sur des personnes qui se battent contre les mines un peu partout. On va creuser pourquoi ? Sans doute pour que des plus riches deviennent encore plus riches. Et mercredi 19 à l'Allumette, 7 rue de la Marne dans le quartier de Pontlieu, il y a l'Assemblée du collectif sartois des soulèvements de la terre, et ça vous permettra en plus de savoir où est l'Allumette et d'aller apporter votre écho à ce centre social autogéré qui en a bien besoin. Et ben voilà tout ce que vous pourriez apprendre et bien plus sur sarthe.demosphère.net. On vous rappelle aussi qu'il existe un site en ligne d'information locale qui s'appelle larnapé avec deux e.org. Info, je crois qu'on a terminé. C'est pourquoi on va se quitter et on va se contenter de vous dire tout simplement allez, au revoir.